L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Janine Elkoubi, présidente de l'association pour une communauté plurielle. À propos des prochaines rencontres, conférences, la première ce sera ce mardi 13 mai au foyer Saint-Maurice à Strasbourg avec Raziza Adnani sur le thème « Sortir de l'islamisme » du titre de son dernier livre. Et la deuxième, ce sera le mercredi 21 mai, une rencontre Zoom avec Cathy Bisraor sur le thème « Libérer les agounotes, le combat et les succès d'une Toinette rabbanite ». Janine Elkoubi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous revenez tout juste de New York, où vous avez animé une conférence autour du féminisme dans la société juive, un combat qui vous tient à cœur depuis longtemps, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Alors, quel était le thème de votre conférence sur laquelle vous avez été, pour laquelle vous avez été invitée, en sachant que votre fille vit à New York et que vous en avez profité également pour passer les fêtes de Pessah aux États-Unis. Alors, dites-nous. Aujourd'hui, toujours ce sujet du guet et du chantage qui l'accompagne.
Absolument, qui est plus d'actualité que jamais, puisque à la faveur des rencontres extraordinairement intéressantes que j'ai pu faire à New York avec des organismes, des rabbins, des animateurs et des animatrices de groupes de défense des femmes, en particulier pour cette question absolument cruciale du guet, je suis en train de monter avec un groupe de femmes passionnantes françaises, enfin une association d'aide aux femmes, non pas agounotes, c'est le terme le plus courant, mais aux femmes qu'on appelle « me sera votre guette », c'est-à-dire ces femmes qui sont extrêmement nombreuses à se voir opposer un refus de guette par leur mari, et pas toujours avec l'aide, qui ne sont pas toujours et peut-être pas très souvent, en particulier hors de Strasbourg, aidée par l'instance rabbinique. Et donc, nous avons, jeudi dernier, lancé un questionnaire à destination de ces femmes, 20 questions dont l'objectif est premièrement d'avoir un état des lieux qui n'existe pas à l'heure actuelle. Je vais simplement vous dire qu'en 3 jours, entre jeudi et Motzé Shabbat, samedi soir, nous avons eu déjà 38 femmes qui ont répondu à ce questionnaire et qui, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais cette association est en train de se faire dans les jours qui vont venir.
Évidemment, on vous invitera
dans un deuxième temps.
Et c'est très
important, bien sûr, c'est très important que ça soit diffusé et je suis extrêmement heureuse de cela.
Alors, pour nos auditeurs non-juifs ou juifs, mais qui ne maîtrisent pas forcément les pratiques du courant orthodoxe, le guet, c'est un lien de mariage entre un homme et une femme qui doit être dissous, donner la permission de l'homme pour que la femme puisse, lors du divorce, puisse refaire sa vie, tout simplement.
Voilà. Alors, la spécificité du guet, c'est que sur le plan formel et technique, c'est le mari qui doit donner ce document. Le guet, c'est le document de divorce qui doit donner ce document. Et ce à quoi on assiste depuis à peu près, en gros, le milieu du XXe siècle, mais qui s'est accentué beaucoup dans la deuxième moitié du XXe siècle et maintenant, c'est ce phénomène incroyable de refus du guet, parce qu'un certain nombre de maris, et de plus en plus nombreux, et qui sont dans tous les milieux, du milieu le plus religieux au milieu le plus assimilé, ont compris qu'ils avaient là un instrument, un pouvoir dont ils se servent pour extorquer de l'argent. Tout le monde a en tête le guet scandaleux du Beth Din de Paris en 2014. Extorquer de l'argent, exiger des avantages pécuniaires ou en nature. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est en opposition totale avec la loi juive. La loi juive qui stipule que quand un couple est séparé, la chose immédiate à faire, c'est pour le mari de donner ce guet.
Voilà. Pour que la femme puisse répondre. C'est un sujet que vous avez abordé également lors de votre conférence à New York.
Absolument, absolument. Alors, les problèmes, il y en a partout, mais il faut dire, de l'aveu de Cathy Bisraor, dont je parlerai tout à l'heure, que c'est un méga phénomène en France, beaucoup plus qu'ailleurs.
Alors, on va parler de cette conférence qui a lieu ce soir. Vous accueillez Raziza Adnani sur le thème « Sortir de l'islamisme ». Raziza Adnani, professeure de philosophie, journaliste, conférencière franco-algérienne, qui aujourd'hui dénonce le dogmatisme archaïque de l'islam. Alors, quels sont les propos tenus lors de cette conférence? De quoi allez-vous parler, refaire un état des lieux aujourd'hui de l'islam en France, en sachant que marche sur des œufs à l'heure où tous les termes sont mélangés, on parle d'islam, on parle des musulmans, on parle d'islamophobie, de racisme anti-musulman. En fait, il est très difficile, enfin, il est facile d'entendre les choses, mais il est très difficile d'extorquer aujourd'hui cette idée de toute cette nébuleuse, parce qu'il y a des gens, évidemment, qui instrumentalisent aujourd'hui l'islamisme.
Et nous sommes, je vais utiliser un mot un peu trivial, dans une littérale bouillie du langage. Une bouillie sémantique, une bouillie linguistique qui permet à tout le monde d'instrumentaliser tout. Et Razika Adnani, c'est même la raison pour laquelle nous l'avons pour une communauté plurielle invitée, est une femme qui est une chercheuse, une universitaire, musulmane de surcroît, parfaitement connaisseuse du Coran, de l'islam, et qui, depuis des années, lutte pour d'abord mettre un nom juste sur les choses, qui est souvent invitée sur les plateaux de télévision, évidemment pas de n'importe quelle télévision, vous pouvez vous en douter, mais sur les plateaux de télé, elle donne des interviews régulièrement au Figaro, à d'autres journaux, j'en ai lu une ce matin encore, où elle parlait de ce thème-là, et elle est la personne parmi d'autres, mais elle est une personne parfaitement experte dans ce domaine-là pour dénouer cette pelote complètement emmêlée de ce qu'on nous sert quotidiennement sur toutes les radios en France, sur beaucoup de plateaux télé et dans un certain nombre de journaux que je ne citerai pas, qui contribuent à cette confusion, ce magma, cette incapacité de pouvoir distinguer les choses.
Et tant qu'on ne peut pas distinguer les choses, aujourd'hui, la communauté musulmane souffrira de ce racisme anti-musulman parce qu'il est besoin de dire les choses et de les classer, de les classifier. En fait, on a besoin effectivement de savoir sur quelle échelle de l'islam se placent les gens. Et évidemment, il n'est pas question aujourd'hui de dénoncer ou de montrer du doigt une communauté plutôt qu'une autre, mais effectivement des dérives aujourd'hui qu'on peut apparenter à des dérives sectaires. Hein.
Et qui nuisent en premier lieu, justement, comme vous l'avez dit, à la communauté musulmane, où beaucoup de gens sont rivés au silence, à l'incapacité de parler, par l'entrisme des frères musulmans, par ce qu'on appelle aujourd'hui, mais Razika Adnani en parlera mieux que moi, de l'islamisme, et surtout par la posture d'une certaine extrême gauche en France, de certains idiots utiles de cette extrême gauche qui desservent prodigieusement les intérêts de la communauté musulmane et qui l'enferment dans une image et une définition qui divise finalement la communauté nationale et qui monte les uns contre les autres les gens au lieu de leur laisser voir leurs intérêts communs.
Aujourd'hui, les musulmans qui dénoncent, alors on a Boualem Sansal évidemment, on a Mohamed Sifaoui, Boualem Sansal qui le paye aujourd'hui encore très cher. Il y a effectivement des intellectuels aujourd'hui musulmans, et je pense qu'il faut être de la communauté musulmane pour dire attention et faire évidemment un réel distinguo entre la foi et les textes, et aujourd'hui cette instrumentalisation des textes, on parlait d'archaïsme de l'islam, ce sont les musulmans qui payent le prix fort. On sait qu'aujourd'hui Mohamed Sifaoui, une Sophia Aram sont sous protection policière pour des choses qu'ils vont dire pendant des conférences.
Tout à fait, et certainement d'autres aussi sont sous protection policière, d'autres qui ne sont pas musulmans et qui ont par exemple dénoncé justement cet entrisme des frères musulmans dont on commence à prendre conscience dans la population de France que depuis peu de temps, je pense à Florence Bergeau-Blaclair que nous avions, nous, pour une communauté plurielle, invitée l'année dernière et qui a, déverrouillé cette question des frères musulmans qui était absolument tabou et de leur présence partout, dans toutes les instances, de leur entrisme dans toutes les institutions, des syndicats, aux universités, à toutes les instances représentatives en France. Et c'est un poison qui s'est infiltré là et qui est un poison encore une fois, pour les Juifs, bien évidemment.
Oui, il y a un antisémitisme...
Un antisémitisme structurel.
Structurel, oui, celui-ci.
Et qui, donc, même pas seulement, ce ne sont pas seulement des gens qui sont hostiles aux Juifs, ce sont des gens qui veulent appliquer un islam complètement archaïque, une charia qui va être une charia de conquête, mais qui ont su, avec une intelligence prodigieuse, utiliser les canaux de langage et les canaux émotionnels des Français, des Occidentaux en général, pour déguiser cette volonté de conquête. Florence Bergeau-Blaclair le montre avec des chiffres, la déguiser en cause humaniste, en cause généreuse. Voilà, et ce sont ces choses-là que Razika Adnani va dire certainement également. Elle a écrit, parmi d'autres, un livre qui s'appelle justement « Sortir de l'islamisme » et qui sera en vente ce soir-là.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment, en fait, ce n'est même pas une question de sentiments, c'est quelque chose de très factuel, que si on dénonce l'islamisme radical, on est forcément du côté des fachos. C'est pareil, on est toujours sur des problèmes de sémantique à la base, et qu'il y a une... Il y a quelque chose de facile, la pensée un peu vulgarisée, de se dire, bon, si on dénonce l'islamisme radical aujourd'hui, on est du côté des fachos, on a l'impression que la société est très divisée, et la classe politique aussi, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de centristes pour parler de ce genre de sujet.
Je crois que c'est plus grave que ça, c'est qu'on est dans une société qui a accepté de se cantonner à une pensée, si on peut appeler ça une pensée binaire. Une pensée binaire, on est ou du côté des bons ou du côté des mauvais, on est ou noir ou blanc. Pour les uns, quand on dénonce par exemple l'islamisme politique ou les frères musulmans, on est des fachos. Alors le problème, c'est que bien sûr, la grande majorité des gens ne sont pas dans ce binarisme-là, mais se le voient imposer et il y a une telle censure de la part des médias, par exemple, de certains médias, de beaucoup de médias, de la part de ceux qui crient le plus fort. Je pense, par exemple, à ces petits groupuscules que M. Deneken dénonçait quand nous avons parlé de l'antisémitisme à l'université. Des petits groupuscules d'une trentaine, d'une quarantaine de personnes qui bloquent toute une université, qui bloquent tous les autres étudiants. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ont envie, à l'université, de passer leurs examens et pas de perdre leur temps à hisser des banderoles et des drapeaux et des slogans très souvent mensongers. Eh bien, cette pensée, cette attitude de binarisme manichéenne est devenue l'une des caractéristiques, malheureusement, de ce qui se dit et s'écrit, et aussi, pour une autre raison, parce que les réseaux sociaux sont devenus tout puissants et que tous ces facteurs-là font que la pensée nuancée, que la nuance est exclue. La nuance, le débat, le débat respectueux avec des arguments et pas avec des invectives et des anathèmes, on est dans quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental que nous continuions à parler, à demander, à parler, à dire ce qui nous semble vrai, à argumenter, à ne pas nous laisser... Nous, quand je dis nous, c'est toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes qui veulent défendre ce qui est vraiment l'humanisme de notre société, continuer à défendre le courage de la nuance. Je paraphrase là le titre d'un livre de Birnbaum, Le courage de la nuance. Ça me paraît mais fondamental pour. C'est une posture, une position de salut.
Donc, pour continuer à développer ce sujet, c'est ce soir, c'est au foyer Saint-Maurice, c'est avenue des Vosges, hein, c'est pas très loin.
C'est juste en face de l'église Saint-Maurice, c'est rue de Reims,
Rue de Reims, donc c'est à 20h, réservation obligatoire.
Alors, on a demandé que les réservations se fassent, étant donné évidemment que le sujet est sensible, que nous avons averti tout ce qui est force de sécurité, et donc on voudrait bien que les gens s'inscrivent. Je pense, beaucoup de gens se sont déjà inscrits. Donc,
Et ceci, donc, les forces de sécurité illustrent également nos propos, qu'aujourd'hui, il y a des sujets pour lesquels il est besoin de se protéger. Janine Alkoubi, merci infiniment d'être passée nous voir. On parlera dans un deuxième temps, dans une autre interview de cette conférence avec Cathy Bisraor. Aujourd'hui, on donne rendez-vous évidemment à nos auditeurs. Donc, c'est ce soir au foyer Saint-Maurice. pour rencontrer Raziza Adnani autour de son livre « Sortir de l'islamisme ». Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.